Alors j'ai un gros contrat ce matin, c'est de finir le chapitre 21 de l'évangile de Jean, mais le temps est déjà bien avancé et on va voir comment le Seigneur dirige pour regarder cela ensemble. Prions. Notre Père Céleste, merci de nous accompagner ce matin dans ta parole, ta prédication, que ton nom soit glorifié. Merci de permettre que cette parole fasse un effet dans nos cœurs, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins selon tes promesses. Nous humilions devant toi, nous sommes des serviteurs qui, après avoir accompli ton œuvre, restent inutiles, car sans moi, comme tu as dit, vous ne pouvez rien faire, et combien c'est vrai. Alors nous humilions profondément devant toi, que ton nom seul soit glorifié. Merci de manifester ce matin, et s'il y a une réponse particulière dont l'un ou l'autre a besoin, que cela puisse accomplir dans ta paix, au nom de Jésus. Amen. C'est bon, vous êtes prêts à aller de l'avant avec la parole? Oui? Merci Luc. Bon, on y va? Allez. Jean chapitre 21, et je m'étais fixé de vous donner un résumé du verset 1 à 14, puisque ce que nous avions vu la dernière fois, on n'avait pas pu continuer verset 15 à 25. On va voir comment on va faire cela. Peut-être je vais commencer à partir du verset 31, chapitre 20, mais on va relire le chapitre 21 en entier. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » L'évangile de Jean se termine là en fait. Mais l'évangéliste a à cœur d'écrire quelque chose de plus. Au verset 31, on a le but de l'évangile, afin que l'on croie. D'ailleurs, le verbe croire est un des mots clés de l'évangile de Jean, qui se trouve 98 fois. C'est le verbe et non pas le nom, foi, c'est le verbe, parce que le verbe amène à une action, et nous devons croire pour avoir la vie éternelle, nous devons croire en Jésus-Christ. Mais l'auteur a un fardeau qu'il veut partager. Et l'épilogue qu'on va lire au chapitre 21 est en quelque sorte une réponse à plusieurs questions. Qu'allait-il devenir des disciples ? Est-ce que Jésus allait pouvoir à leurs besoins? Et Pierre, allait-il être rétabli comme l'apôtre, le leader parmi les apôtres? Allait-il être celui qui allait conduire à nouveau les disciples? L'épilogue a pour but de répondre à ces différentes questions. Nous lisons à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfin, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, firent tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, des poissons dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus, avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je pense que le monde même pourrait contenir les livres que ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Que le Seigneur bénisse abondamment sa parole. On va essayer d'utiliser le... Bon, oui, ça marche. Bon. Alors, en introduction ici, je vous ai déjà mentionné que l'épilogue est en fait un rajout à la fin et à la conclusion de l'évangile de Jean. La question clé ici, quand on lit tout le chapitre 21, est la suivante. Qu'en est-il de mon service pour le Seigneur ? Qu'en est-il de mon service pour le Seigneur ? Est-ce qu'il est vraiment le maître de mon service ? Quel que soit le service que nous voulons accomplir pour le Seigneur, est-ce qu'il est vraiment le maître ? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on le laisse diriger notre service et ainsi le servir à sa gloire, même si après avoir servi, on est encore des ouvriers inutiles ? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment le maître du service que je dois lui rendre ? En fait, on a vu dans les versets 1 à 14, versets 1 à 25, plutôt ici, le plan de l'épilogue, c'est tout d'abord la pêche miraculeuse, la conversation avec Pierre de Jésus, et puis aussi à la fin, la conclusion qui est en fait la conclusion de l'épilogue, qui est le dernier témoignage de l'évangéliste Jean. Jean a toujours eu un fardeau que les gens croient. Tout au long de son évangile, il présente Jésus, il présente ses miracles, il présente ses enseignements, et ce qu'il désire, ce que les gens croient. Et on a vu pendant ces 3 années dernières, n'est-ce pas, groupe de maison, qu'il y a ceux qui croient de plus en plus et qui s'attachent au Seigneur et ceux qui croient de moins en moins jusqu'à vouloir crucifier le Fils de Dieu sans réaliser vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Autrement dit, face à la vérité, il y a 2 possibilités. Soit on l'accepte, on croit de plus en plus et on y adhère et on le reçoit dans son cœur. Soit le cœur s'endurcit et même peut de plus en plus s'endurcir et rejeter la lumière. Ainsi, nous avons un choix à faire face à la vérité. Nous pouvons croire la vérité, ou nous pouvons y adhérer, l'accepter, ou nous pouvons la refuser. Alors, les leçons tirées de la fois dernière, rapidement, j'ai moins de temps que prévu ce matin, par la grâce de Dieu, on va essayer quand même de passer à travers. En fait, ici, c'est les leçons à tirer, ça parle du service. Pierre, ayant déjà rencontré Jésus une première fois, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, ou ce que Jésus lui a dit plutôt, mais ceci dit, il s'en va, après avoir rencontré une première fois Jésus, à la pêche. Et comme c'est un leader, eh bien, il arrive à entraîner ses collègues. Ils sont 7, n'est-ce pas, à partir à la pêche, parce que c'est un leader et naturellement, les gens le suivent. Et c'est la leçon, c'est l'application, c'est quelqu'un qui agit selon sa propre volonté. Est-ce que c'était le temps de Dieu pour lui d'aller à la pêche ? La réponse, avec tout ce qu'on voit dans le chapitre ici, c'est non. Pourtant, c'était son métier. Mais il ne faut pas oublier que quelque part avant, Jésus a visité certains de ses disciples, les a choisis, et leur a dit, vous êtes pêcheurs, mais suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le Seigneur leur a laissé ce mandat. Tout le long de leur vie, de leur formation, il a voulu faire de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Une fois Jésus ressuscité, qu'est-ce que fait Pierre ? Il va à la pêche. On se demande pourquoi il va à la pêche ? Peut-être ne sait-il pas son avenir, peut-être a-t-il des craintes, il faut bien pourvoir à ses besoins, et certainement a-t-il, dans sa confusion, oublié le mandat de Dieu, pour lui et pour l'équipe de Jésus-Christ, en quelque sorte. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de prendre une décision, peut-être même entraîner d'autres personnes d'aller à un endroit, et finalement, ça ne marche pas ? La Bible dit que cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est décourageant, n'est-ce pas, lorsqu'on travaille fort et que le résultat des efforts, c'est zéro, rien. La deuxième application ici, c'est que c'est parfaitement inutile. Enfin, n'avez-vous rien à manger ? Ils ont travaillé, ils n'ont rien pêché, donc ils n'ont rien. tous leurs efforts sont carrément inutiles. Non seulement il n'y a rien qui est arrivé, mais en plus c'est parfaitement inutile. Le but c'était de pourvoir à leurs besoins. Et le résultat de toute une nuit d'efforts, aucun poisson dans le filet. Donc ils ne peuvent plus pouvoir se nourrir et pourvoir à leurs besoins. C'était parfaitement inutile. Par contre, quand Jésus leur dit de jeter le filet à droite de la barque, qu'est-ce qui se passe? Le filet se remplit et on voit que sous les directives de Christ, le service est rendu fructueux. Le Seigneur n'a-t-il pas dit en Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a toute une différence d'aller à la pêche avec le Seigneur et d'aller à la pêche sans le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la pêche et vous avez essayé de prendre des poissons. Ça m'est arrivé quelquefois, surtout au Québec. Et il m'est arrivé de rien prendre et puis d'arriver à prendre beaucoup de poissons. Mais là, il s'agit du pêcheur d'hommes, de pêcher des âmes. Le Seigneur veut qu'on aille à la pêche et que dans nos efforts à gagner les âmes, nous puissions avoir des âmes qui sont récoltées dans nos filets. Les filets de l'amour de Dieu, les filets de l'Église. Et lorsque le Seigneur intervient dans nos vies, il nous dit exactement quoi faire, il y a toute une différence. Le sage s'empare des âmes, mais la sagesse consiste à demeurer en Christ, à être proche de lui et à recevoir de lui la sagesse pour gagner une âme au Seigneur. Est-ce que vous avez déjà gagné une âme au Seigneur? Si vous n'avez pas gagné une âme au Seigneur, peut-être vous devez apprendre, comme j'ai dû apprendre à Québec, à aller à la pêche et espérer prendre du poisson. Le Seigneur veut vraiment qu'on prenne du poisson. Qu'on engrange des âmes pour l'éternité. C'est le but de notre vocation sur terre. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Si on suit le Seigneur veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Pensez à quel point vous avez suivi le Seigneur, jusqu'à quel point vous avez vraiment amené des gens au Seigneur. Nous devons vérifier cela et nous appliquer à ce que notre pêche soit miraculeuse. Deux miracles se sont produits. Premièrement, il y a eu un grand nombre de poissons. Et deuxièmement, le filet ne s'est pas rompu. Parfois, nous pensons que si nous avions trop d'âmes et de conversions, nous ne serions pas capables en tant d'Église de les intégrer. Mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur non seulement peut faire le miracle de gagner des âmes mais au travers de nous, mais aussi le miracle de pouvoir les accompagner et les suivre. Nous n'avons aucune excuse de ne pas faire l'œuvre de bons évangélistes, comme dit Paul à Timothée. Nous sommes souvent incrédules face à cela. Le monde est perdu, le monde va en enfer, une âme qui ne connaît pas le Seigneur est perdue pour toujours. Et nous devrions avoir foi à amener des âmes au Seigneur Jésus. Il s'agit de l'éternité, il ne s'agit pas de mon bonheur, bien personnel ou de ma gloire personnelle ou de mon trophée personnel, il s'agit de la gloire de Christ. Toute âme a été créée pour glorifier Dieu, tant que l'âme n'est pas sauvée, c'est un incrédule. Qui ne glorifie pas Dieu. Et Dieu est mort sur la croix pour que chacun se convertisse et accepte Jésus. Il est possible que Dieu nous donne une grande moisson. Est-ce que nous le croyons réellement? Est-ce que nous avons appris à aller à la pêche selon la volonté de Dieu, au moment de Dieu, à l'endroit de Dieu et la façon avec laquelle Dieu veut que nous pêchions? Des poissons, je m'entends. Et puis, la dernière leçon que nous avons tirée de ce passage, du verset 1 à 14, c'est que Dieu prend soin de ses serviteurs qui sont à son service. Parfois, on pourrait se préoccuper si je sers le Seigneur et si je fais exactement ce qu'il veut. Comment Dieu va-t-il pourvoir à mes besoins? Dieu a promis ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et Dieu le fait avec beaucoup de tendresse. Jésus a accueilli les disciples. Ils étaient affamés, ils étaient fatigués. Ils étaient vraiment épuisés après une nuit infructueuse. La frustration physique, la frustration psychologique, le manque de succès dans la pêche, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et des fois, Dieu permet que dans ce que nous faisons, ça ne marche pas parce qu'il veut nous montrer quelque chose que nous avons besoin d'apprendre. Mais l'idée ici, c'est que Jésus les accueille, les nourrit, il a même préparé le poisson, le pain, tout est prêt. C'est merveilleux. Dans le service de Dieu, Dieu va pourvoir à nos besoins, il va nous donner encore de ressourcements spirituels pour aller de l'avant, il va nous donner ce qui convient au point de vue matériel afin que nous puissions le servir et le glorifier. Nous sommes entre les mains de Dieu. Est-ce que nous croyons que Dieu peut pourvoir à nos besoins et nous allons passer l'éternité avec lui? C'est notre Père, alors autant de suite croire qu'il va prendre soin de nous et qu'il le fait réellement. Et nous entrons donc à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. à la conversation, notamment jusqu'au verset 23, la conversation de Jésus avec Pierre. Comment Jésus allait-il s'y prendre, n'est-ce pas, pour rétablir l'apôtre Pierre dans sa vocation? C'est intéressant de savoir que le croyant qui chute peut être rétabli par Jésus-Christ. Il n'y a pas de chute que Dieu ne puisse pas permettre à être guéri. Ça vous est déjà arrivé de chuter, de passer par un tunnel, de ne plus savoir ce que Dieu voulait dans votre vie, ou d'avoir abandonné Dieu? J'ai appris récemment d'un frère qui, dans une autre église, enfin pas du tout à Toulouse en plus, donc, je ne pense pas que vous allez découvrir, il a perdu un enfant. Ensuite, sa femme, pour un deuxième enfant, a fait une fausse couche. Ça a été terrible pour lui. Pendant un an, il s'est révolté contre Dieu, jusqu'à ce que Dieu le rétablisse. Et aujourd'hui, il porte beaucoup de fruits. Ça peut nous arriver dans notre faiblesse de chuter. Pierre était assez impétueux, mais aussi prétentieux. Il a toujours pensé qu'il suivrait le Seigneur tout le long de sa vie. Jusqu'à un moment donné, il chute réellement. Et le coq chanta trois fois. Pourquoi ? Parce qu'il avait renié le Seigneur. Il avait renié le Seigneur. La question ici que Jésus aborde, c'est la question du degré de l'amour qu'on a envers lui. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Dieu vous pose la même question, et me pose bien sûr la même question ici ce matin. M'aimes-tu, Michel ? M'aimes-tu ? Et vous pouvez mettre votre prénom. M'aimes-tu ? Jusqu'à ce point, quel est le degré de ton amour pour moi ? En fait, tout vrai croyant, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, manifeste l'amour envers Dieu. Quelqu'un qui connaît le Seigneur a de l'amour pour Dieu. C'est un des signes d'une authentique conversion. C'est l'amour de Dieu. L'amour des frères, l'amour des Écritures, mais l'amour de Dieu, d'aimer Dieu. Je vous lis quelques passages, si vous me permettez. Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Deutéronome 10, verset 12, 13. Maintenant Israël, que demande-toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Daniel 9, 4, je prierai l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. Néhémie prie aussi et dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et le psalmiste David dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est bon de lui dire que nous l'aimons. C'est bon de lui dire malgré nos faiblesses. Jusqu'à quel point on peut dire qu'on aime le Seigneur ? Le Seigneur, on va répondre comme Pierre, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais nous savons que dans notre amour pour le Seigneur, il y a bien des limites. C'est lui d'abord qui a commencé à nous aimer, c'est pas nous qui l'avons aimé par nous-mêmes. C'est lui qui a révélé son amour afin que nous puissions l'aimer. Tout dépend de lui. Mais nous pouvons avoir des degrés différents d'attachement au Seigneur. Et ce matin, ici, Dieu sait exactement notre attachement envers lui et notre amour pour lui. Et la question qu'il nous pose, à quel degré m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Jésus demande à ce qu'on l'aime. Jésus lui répondit à un pharisien qui posait une question, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta parole. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Paul dit en 1 Corinthiens 8, 3, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Quel est notre degré d'amour envers le Seigneur ? Nous allons maintenant donner la règle et la réponse. Si vous m'aimez, dit Jésus en Jean 14, verset 15, gardez mes commandements. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Si nous disons que nous aimons Dieu, ce n'est pas un élan sentimental, ce n'est pas quelque chose d'exalté un dimanche matin, de temps en temps, quand un cantique touche un peu nos sentiments. C'est un amour profond, un attachement envers le Seigneur Jésus-Christ, un engagement, une consécration, une vie qui est totalement donnée à Dieu. Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer. C'est pour ça que Dieu dit au travers de Salomon dans un proverbe, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » L'attachement que nous avons dans les choses de la vie ou vis-à-vis de Dieu démontre exactement où nous sommes vis-à-vis de Dieu. Quelle est ma part et quel est le degré de mon amour envers Dieu? Le deuxième aspect que dans la conversation que Jésus développe, c'est la souveraineté de Jésus sur l'avenir de ses serviteurs. Pierre, Jésus prophétise la mort de Pierre, on va y revenir dans un instant après avoir vu la conversation avec les trois questions. Et puis Pierre se préoccupe de Jean. Et que va lui a-t-il arrivé à mon ami intime, Jean? Et le Seigneur lui dit, mais ça ne te regarde pas. Est-ce que nous avons vraiment confiance dans l'avenir en tant que serviteurs de Dieu? Nous pouvons parfois nous poser la question. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver aux autres? Quelle est la volonté de Dieu pour les autres? Dieu me dit de ne pas m'en occuper. Dieu me dit de le suivre. Toi, suis-moi. Nous avons besoin de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Le Seigneur a une volonté spécifique et particulière, générale pour chacun de nous, mais particulière pour chacun. Et nous devons suivre le Seigneur. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si je suis le Seigneur me dirige dans la lumière. Alors regardons un petit peu la conversation de Jésus. Vous savez, c'est, écoute Pierre, je te prends à part, c'était difficile pour toi, tu es un homme faible, donc allez, je te rétablis. Est-ce que Jésus a fait comme ça? Pas du tout. C'est intéressant. Jésus a rétabli Pierre en lui posant une question. M'aimes-tu? C'est incroyable quand même, la pédagogie du Seigneur. M'aimes-tu? Et là, Pierre est touché dans son cœur. Parce que Jésus emploie la première fois le verbe agapao, qui est le mot amour, d'un amour intentionnel, très profond. Un amour, n'est-ce pas, qui montre une totale consécration, ce que n'a pas démontré Pierre. Je vous en donne la démonstration. Jean 18. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Non, je n'en suis point. » Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia. J'ai regroupé les trois passages. Hein. Il le nia et dit, « Non, je n'en suis point. » Un des serviteurs, troisième fois, du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, si elle s'en souvenait, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. Donc Pierre se posait beaucoup de questions sur son avenir apostolique et sur l'autorité qu'il exercerait par la suite. Pierre avait chuté. La Bible dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Heureusement que la grâce et le pardon de Dieu rétablissent celui qui se repent, qui a chuté. C'est l'expérience de la grâce de Dieu toute suffisante. » Ma grâce te suffit. Autant dans l'épreuve, ma grâce te suffit. Autant dans le désir et le besoin que nous avons de retourner vers le Seigneur, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que nous pourrions apporter à Dieu pour revenir vers lui? Des sacrifices, des belles paroles. Il sait ce qui est dans notre cœur. Ce qu'il désire, c'est un cœur qui se repent et qui accepte le verdict de Dieu. Lorsqu'on n'est pas en communion avec Dieu, lorsqu'on en a perdu la communion avec Dieu, alors nous devons nous repentir et dire au Seigneur la vérité sur nous-mêmes, de faire un diagnostic réel sur ce que nous sommes devant lui. Et Dieu nous rétablit. Dieu pardonne à celui qui se repent. Mais ces leçons de chute et de difficulté, Pierre va les utiliser un jour pour fortifier l'Église. Ça me fait penser à Josué à qui il avait été dit « Fortifie-toi et prends courage ». Ne t'ai-je pas dit « Fortifie-toi et prends courage » Et plusieurs fois, Dieu fortifie et encourage Josué à aller de l'avant, qui était un jeune serviteur qui avait suivi Moïse et maintenant qui le remplaçait. Et Josué plus tard dira plusieurs fois, n'est-ce pas, dans son livre, Josué « Fortifiez-vous et prenez courage ». Fortifiez-vous et prenez courage. Son expérience est devenue une bénédiction pour tout un peuple. Notre expérience de rétablissement dans le Seigneur devient une bénédiction pour les autres, pour soi-même et pour les autres. Rien n'est perdu avec le Seigneur. Si nous sommes éloignés de Dieu, Dieu veut nous rapprocher de lui dans sa grâce, si nous sommes vrais et honnêtes devant lui, et ensuite il nous rétablit, on devient une bénédiction pour les autres. Nous sommes tous assujettis à des faiblesses, on peut traverser des persécutions, on peut traverser des moments difficiles, et Dieu veut nous soutenir et nous rétablir si nous chutons. Dans la façon avec laquelle Jésus va rétablir Pierre est assez merveilleuse, n'est-ce pas? M'aimes-tu? Est-ce que vous avez déjà entendu le Seigneur vous dire m'aimes-tu? On a plutôt envie d'entendre je t'aime, tu es mon enfant. Mais là, le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et il emploie donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le verbe agapao, c'est un amour profond qui est notamment décrit, bon, rapidement, on le lit parce que c'est incontournable de lire 1 Corinthiens 13, c'est cet amour divin, agapé, un amour surnaturel. Verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. On a tous à apprendre là-dessus, n'est-ce pas? Il ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Mais Pierre n'a pas supporté le fait d'être questionné à un moment où son maître était prisonnier et pris et être amené plus tard à la crucifixion, à l'infâme bois. Donc cet amour-là, le Seigneur nous demande, est-ce que tu m'aimes vraiment de cet amour-là? Et Pierre, dans sa réponse ici, ne peut dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il fait appel à l'omniscience de Dieu. Il sait très bien que Jésus sait toutes choses sur lui. Et c'est bien de savoir que Dieu sait toutes choses. On a tendance un peu, quand on pêche contre Dieu ou avec les hommes, on a tendance à fuir, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'a fait Adam et Ève, ils ont fui, mais c'est Dieu qui est allé les chercher. On a envie de fuir au lieu de faire face et de dire, Seigneur, oui, tu sais toutes choses. Reconnaissons que Dieu sait toutes choses, il connaît les fibres les plus intimes de notre être, il sait absolument toutes choses. Vous pouvez penser cacher quelque chose au Seigneur? Mais nous faisons comme si nous pouvons lui cacher quelque chose, parce que nous voulons fuir des choses qui ne nous plaisent pas, n'est-ce pas? Nous essayons d'enfouir les choses à des endroits comme quelqu'un qui fait le ménage et qui met toute la poussière sous le tapis, n'est-ce pas? Ça semble plus rapide, mais ça ne marche pas, cela. Et la poussière demeure. On ne peut rien cacher au Seigneur. Tout est connu. Rien n'est caché devant Dieu. Alors tu sais toutes choses. Au moins il s'humilie, là, il a compris, parce que quand Jésus pointe le doigt et dit « M'aimes-tu de cet amour divin qui démontre une consécration totale en parole, en action ?» Pierre, il est en train de penser « Mais moi, j'étais prêt à agir. Je me suis mis devant les disciples. J'ai dit « Seigneur, moi, je t'abandonnerai jamais. » Et pourtant, il l'a abandonné. Donc, il dit « Tu sais toutes choses. » Alors il dit « Tu sais que je t'aime. » Et dans le grec, ici, ce n'est pas le même verbe, c'est le verbe « philéo » qui est plutôt « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, de l'amitié pour toi. » Pierre ne peut pas utiliser le même mot que Jésus est en train d'utiliser, parce qu'il a failli. Il sait que son manque d'amour n'a pas pu l'amener à chuter. Et c'est souvent dans un manque de vie, d'expérience, de l'amour divin que l'on chute. Lorsqu'on est rempli de l'amour surnaturel, on obéit au Seigneur. Alors, il ne peut répondre qui ne peut l'aimer que de cet amour d'affection. J'ai de l'affection pour toi, Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. Et c'est vraiment humiliant pour Pierre, parce que Jésus est en train de mettre le doigt exactement sur la vraie motivation du service. On a vu ensemble plusieurs aspects du service. Maintenant, la vraie motivation, c'est l'amour. Et dans la faillite de Pierre, Jésus est en train de le rétablir pour lui dire que le vrai service doit être motivé par l'amour. Et dans cette motivation, dans l'humiliation que ressent Pierre dans cette première étape de maintenant se consacrer à nouveau à Jésus, il lui dit quand même « Paix mes agneaux ». C'est extraordinaire cela. « Paix mes agneaux, occupe-toi de mes agneaux. Paix mes agneaux. » Comment va-t-il le faire? Imaginez l'apôtre Pierre. Comment va-t-il faire pour paître les agneaux? Il a failli. Est-ce qu'il est encore un modèle devant les disciples? Non seulement il doit être pardonné par Dieu, mais il doit être aussi pardonné par ses équipiers devant qui il a montré tellement de zèle supérieur à eux. Et maintenant, il est obligé d'accepter qu'il va paître les agneaux dans sa faiblesse, mais sous la grâce de Jésus-Christ. Ça vous est jamais arrivé de vous tenir devant Dieu, dire « Seigneur, mais tu connais toutes mes faiblesses, comment veux-tu m'utiliser ?» Ça vous est jamais arrivé de penser comme ça et de penser « Mais comment Dieu va m'utiliser? Est-ce qu'il peut utiliser quelqu'un comme moi? Est-ce qu'il y a de la chance que Dieu m'utilise? Connaissant mes faiblesses, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Est-ce qu'il veut m'utiliser? » Et la réponse est oui. Ma grâce te suffit. Il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. M'aimes-tu? Et nous disons, tu sais que je t'aime Seigneur, mais avec mes faiblesses, mes chutes. Mais quand même, paie mes agneaux. C'est extraordinaire cela. Ici, le mot grec pour paître, il y a trois fois le mot paître dans ce passage ici. Deux fois, il y a des mots différents en grec. C'est plutôt certainement une utilisation d'un style différent de mots Mais le premier mot signifie surtout nourrir sur le plan spirituel. Et vous savez que l'apôtre Pierre a enseigné. Et certainement que le but du berger, c'est d'enseigner les brebis, de les nourrir de la parole de Dieu. Moi, je pense que quand Jésus dit « Simon, Pierre, fils de Jonas », il utilise le premier prénom qu'il avait, Simon, fils de Jonas. Pierre, c'est le nom que Jésus lui a donné. Je pense qu'il est en train de dire, tu vois, avec ce premier prénom que tu avais, je n'ai pas oublié ta nature pécheresse. Et je pense que devant Dieu, on ne peut pas jouer avec le Seigneur. Le Seigneur sait quelle est notre nature pécheresse et nos faiblesses. Il nous dit, oui, je t'appelle par ton nom qui te rappelle ta première nature. Mais quand même, je te rétablis, paix mes agneaux. Si tu t'humilies, et je vois que tu t'humilies, je vais t'utiliser encore, paix mes agneaux. C'est extraordinaire cela. La fidélité de Dieu, malgré notre inconstance et infidélité, Dieu reste toujours fidèle. Le Seigneur avait dit à Simon, il avait prophétisé qu'il chuterait. Il a dit, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le lui. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Quand tu seras élevé, affermis tes frères. Notre retour au Seigneur affermit les autres. C'est merveilleux cela. Dieu ne perd rien. Alors une deuxième fois, Jésus lui dit, m'aimes-tu, Philéo? Et là, évidemment, il lui dit de paître. Paître, dans le sens du mot grec comme berger, ce serait le mot vraiment paître. Le premier, on pourrait traduire par nourris mes agneaux. Là, on pourrait dire vraiment paître mes brebis, paître dans le sens de berger. Et il lui dit, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Excusez, je reviens au verset 15. Le reste va aller assez vite après. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors, ici, c'est pas évident dans l'original de savoir plus que ne m'aime ceci ou plus que tu n'aimes ceci. C'est pas évident la traduction. Plus que ne m'aime ceci, ça peut parler des disciples, des autres disciples. Est-ce que tu crois que tu m'aimes plus que cela? Vous savez que devant les disciples, il a dit que cela n'arrive. Moi, je t'abandonnerai jamais. Mais en fait, il s'est mis au-dessus des autres disciples. Finalement, il n'a pas suivi le Seigneur. Mais dans le grec aussi, on pourrait dire que c'est « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» C'est-à-dire le filet, les poissons, ton métier. À un moment donné, je pense que ici, j'opterai plutôt pour cette option. Jésus veut lui montrer que maintenant, il doit abandonner tout pour le Seigneur. Sa consécration doit être totale. Il n'est pas question qu'il revienne dans son métier. Il n'est pas question qu'il devienne un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Il le rétablit entièrement dans sa vocation, mais il faut qu'il aime plus cette vocation que son métier. Et c'est vrai que des fois, dans l'appel de Dieu qu'il renouvelle, il a besoin de le renouveler parce que parfois, on est attaché à son métier. On ne veut pas abandonner son métier. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit abandonner son métier. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais parfois, Dieu appelle, il y a un appel particulier qui nous demande de nous abandonner entièrement à lui et de lui faire confiance pour un service à temps plein pour lui. C'est une réalité, c'est la parole de Dieu. Il faut aimer le service plus que ce qu'on a pu avoir comme ambition personnelle. D'ailleurs, tout service demande l'abandon de ses ambitions personnelles, qu'on soit à temps plein ou pas. On est tous en train de servir le Seigneur, on est tous à temps plein pour le Seigneur. Rectifions cela et disons-le comme ça. Donc la deuxième question est aussi une humiliation pour Pierre, parce qu'il lui répète « M'aimes-tu ?» Agapao, il n'est pas en train de répéter le mot de Pierre. « Oui, je sais que tu m'aimes maintenant d'un amour avec affection. » M'aimes-tu de l'amour que tu devrais m'aimer, surnaturel? Et Pierre dit, mais tu sais, Seigneur, encore une fois, je t'aime avec mes faiblesses et je t'aime avec affection, avec amitié. Et la troisième fois, Jésus répète, m'aimes-tu? Et là, il prend le verbe que tu lisais, Pierre, le verbe philéo. As-tu de l'affection pour moi? As-tu de l'amitié comme tu déclares? Et Pierre fut attristé de ce qu'il y avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répète, en plus il change de mot, et trois fois. Vous savez que Pierre a renié trois fois, donc Pierre a vite calculé la leçon, n'est-ce pas, je pense. Il fut attristé, parce que dans son cœur, il réalise vraiment que oui, il a failli. Et Jésus maintenant est en train de se mettre à son niveau. Tu m'aimes vraiment de l'amour, amitié, affection? M'aimes-tu vraiment? As-tu l'intention vraiment de m'aimer? Et Seigneur, tu sais toutes choses. Encore une fois, il fait appel à l'omniscience. Tu sais que je t'aime, Jésus. Et Jésus lui dit, encore une fois, nourris mes brebis. Nourris, deux fois, nourris mes brebis, une fois, paie mes brebis. Nourris mes brebis. Ainsi, c'est la façon avec laquelle Jésus a rétabli Pierre. Et ça me fait penser comme l'apôtre Paul qui disait, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voilà la vocation de paître le troupeau. Paul a donné un exemple ici. Et plus tard, Pierre disait ceci, je vous le lis. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi enseigne comme mieux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne. En fait, le ministère dépend de notre maître. Nous sommes incapables de le servir, et l'apprentissage même de servir comme berger vient du maître. Et il le fait en effaçant le passé de nos chutes, en nous soutenant dans nos faiblesses, afin qu'on continue à le servir dans sa grâce et que toute la gloire lui revienne. Vous avez accompli quelque chose pour le Seigneur, eh bien sachez que toute la gloire revient au Seigneur, parce que tout a été fait dans sa grâce. Et ainsi, toute la gloire lui revient. Et Jésus continue, on va terminer avec cela, Jésus continue en lui disant qu'il va mourir, mourir d'une certaine façon. Et Pierre comprend qu'il va mourir martyr. Spurgeon disait, un jour a dit à ses collègues, je ne sais pas si Dieu me demandera de mourir martyr, mais je veux bien croire que s'il me demandait de mourir martyr, il me donnerait la force. Peut-être que dans notre société aujourd'hui, là où nous sommes rassemblés à Toulouse, n'est-ce pas, sud de la France, un bel été, où il y a toute liberté de s'exprimer, on pense pas même, on n'a même pas l'idée qu'on peut être persécuté. Mais lorsqu'on plonge les regards vers ceux qui sont persécutés dans les pays étrangers, on commence à réfléchir. On dit, comment se fait que eux sont appelés à souffrir? Comment ça se fait que moi, je vis dans le confort et l'aisance? Est-ce que je serais prêt à être persécuté comme ces gens-là dans certains pays? Est-ce que Dieu n'a pas le droit de nous poser la question, et toi, serais-tu prêt à mourir pour moi? Jusqu'où va ta consécration? Jusqu'où va le degré de ton amour pour moi? Est-ce que tu serais prêt à mourir pour moi? Peut-être comme a dit Spurgeon, je ne mourrai pas martyr, mais si je devais mourir martyr, Dieu m'en donnerait la force. Mais est-ce que dans notre cœur, nous sommes prêts à mourir pour Jésus? C'est la même question, je pense, que Dieu nous pose. M'aimes-tu? Jusqu'à quel degré? J'ai dû répondre à cette question. Serais-tu prêt à mourir pour moi? Et ça, c'est entre les mains de Dieu. Dieu permet que des chrétiens meurent à cause de leur foi, et Dieu permet que d'autres vivent dans l'aisance et le confort. Ça ne nous appartient pas, ce sont ses plans éternels, ça nous émerveille, en même temps ça nous étonne, ce sont comme des mystères qu'on ne réalise pas. Il y a ceux qui souffrent juste en ce moment où on parle, il y a ceux qui souffrent dans le monde à cause de leur foi, qui sont persécutés, et d'autres qui ont toute liberté, qui n'utilisent pas toujours bien. Mais la volonté de Dieu souveraine s'accomplit. Et Dieu a prophétisé l'amour de Pierre. Et d'ailleurs, Pierre, durant tout son ministère, les années qu'il a suivies après cet appel de Jésus, cette prophétie qu'il allait mourir martyr, toutes ces années de vie apostolique, il était conscient qu'un jour il serait effectivement pris pour être crucifié. Tu tendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas, exactement comme Jésus. Toutefois, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et Pierre aussi ne voulait certainement pas mourir crucifié. Mais le Seigneur a permis qu'il meure crucifié. Et tout le ministère de Pierre, voilà ce qu'il disait Pierre, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je ne connais pas l'avenir de l'autre, mais peut-être que Dieu m'a révélé son appel pour moi et son plan pour moi. » Je n'ai pas à me préoccuper de l'avenir de l'autre. Je peux peut-être prier, mais je n'ai pas à m'en inquiéter. C'est Dieu qui est souverain et qui fait les choses comme il veut. Mais Dieu, s'il m'a appelé, s'il a un plan particulier pour moi, je dois faire exactement ce que Dieu me demande. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais dans certaines mains, je suis appelé à mourir à moi-même. Et si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Dieu nous appelle tous à mourir à nous-mêmes. Et le deuxième aspect de la conversation de Jésus avec Pierre, c'est « suis-moi ». Ici, continue de me suivre. On pourrait le traduire comme ça. L'idée, c'est que Jésus se déplace et Pierre est là et vient de lui dire, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et Pierre dit, je sais, tu sais, Seigneur, je t'aime, mais dans mes faiblesses, je t'aime, j'essaie de t'aimer, mais paie mes agneaux, paie mes agneaux, paie mes agneaux. Et Jésus se déplace et maintenant il dit, suis-moi. Il continue à dire, suis-moi. Il laisse pas Pierre là planté comme ça. Il dit, maintenant, suis-moi. Ça y est, tu me suis. Je t'ai annoncé, tu vas mourir pour moi, mais maintenant, tu me suis. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Le Seigneur demande de le suivre. En fait, dans notre consécration avec le Seigneur, si nous suivons le Seigneur, la Bible dit que nous devons mourir à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre le Seigneur. Porter sa croix, c'est-à-dire être prêt à subir les persécutions de ceux qui pourraient nous persécuter à cause de notre foi. Et c'est ce qu'a vécu l'apôtre Pierre. Et puis Pierre, pour terminer, cette partie de conversation, Pierre s'étant retourné, vit venir après le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, son ami intime, Pierre dit à Jésus, et c'est à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Pierre se préoccupe de Jean maintenant. Parfois on se préoccupe des autres dans le ministère. Qu'est-ce que dit Jésus? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Voyez-vous, là, le Seigneur est en train de recadrer Pierre. Tu penses à d'autres, c'est bien, mais toi, suis-moi. J'ai une volonté souveraine. Et maintenant, nous devons apprendre une chose, une grande vérité de la part de Dieu, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan unique pour chacun de ses disciples. Toi, suis-moi. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie? Toi, suis-moi. Où est-ce que Dieu vous conduit en ce moment? Est-ce que vous êtes certain que là où vous êtes et là où vous allez, vers où vous allez, Dieu est avec vous parce que Dieu vous a dit, toi, suis-moi. Vous êtes en train de suivre Jésus. Il vous précède. C'est pas que vous courez après, dites, Seigneur, viens avec moi, s'il te plaît. Ça marche pas, ça. Seigneur, précède-moi, je te suis. Mais on le suit, c'est dans l'action, c'est pas dans la passivité. Et finalement, Jean termine en disant qu'il aurait aimé, qu'il est impossible d'écrire tout ce qu'il aurait pu dire. En fait, son fardeau est le suivant. Devant la race incrédule d'Israël, qu'il a pourtant visité le Seigneur, certains se sont convertis, mais un grand nombre reste incrédule. Et le fardeau de Jean, c'est comment se fait-il que tout ce que je vous ai écrit et tout ce qui pourrait être encore écrit n'amène pas la foi chez vous? On peut lire les Écritures, mais si elle n'amène pas la foi, c'est en vain. On peut lire les Écritures, mais si on ne se convertit pas pour être sauvé, être pardonné, avoir la vie éternelle, c'est en vain. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous devons avoir foi. En fait, ce passage de Jean chapitre 21 nous amène à un défi personnel. Est-ce que nous servons le Seigneur comme étant vraiment notre maître? C'est-à-dire, sous ses directives, comme il a dit aux disciples de jeter le filet à la droite de la barque, sa provision, c'est Jésus qui pourvoit nos besoins. Nous avons beaucoup de crainte à servir le Seigneur parce qu'on croit que Dieu n'est pas en train de pourvoir. Alors qu'en fait, c'est dans l'action et dans le service humble et obéissant que Dieu est en train de pouvoir, toujours, toujours. Ensuite, on doit apprendre que si on sert le Seigneur, ça va être sous sa grâce et consécration. Oui, Dieu a un plan pour nous de service, mais ça ne peut se faire que par grâce, mais lié à une discipline spirituelle qui est « Seigneur, je te donne ma vie, prends-la, je me consacre à toi ». Et puis finalement, le dernier point que j'ai souligné ce matin, c'est sa divine souveraineté. C'est le texte qui évidemment le souligne. Nous n'avons pas à nous préoccuper particulièrement des autres, mais nous devons nous préoccuper de suivre le Seigneur là où il nous a placés, là où il veut nous engager. Dieu a des directives particulières et uniques pour chacun de nous et nous dépendons de sa divine souveraineté. Est-ce que parfois vous vous sentez faible comme moi? Dans les épreuves, dans les insuccès, les chutes, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Eh bien, l'apôtre Pierre a été rétabli. L'apôtre Pierre a été rétabli malgré sa faiblesse, son incapacité de dire au Seigneur, je t'aime d'un amour surnaturel. Dieu lui a dit, paix mes agneaux. C'est sa vocation. Et de même, la grâce que nous avons dans nos vies, maintenant, c'est de connaître l'amour surnaturel. Et nous pouvons dire à Jésus que nous l'aimons d'un amour éternel parce que lui nous a aimés le premier, parce que nous avons connu cet amour. Est-ce que vous connaissez cet amour ce matin? Est-ce que vous êtes en communion avec ce Père d'amour éternel qui rend le service possible? Sans lui, mission impossible. Avec lui, tout est possible. Prions, s'il vous plaît. Notre Père, nous nous humilions ce matin. Nous sommes comme l'apôtre Pierre, faibles, ayant chuté certainement d'une manière ou d'une autre. Mais merci parce que tu veux constamment nous rétablir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et nous n'avons pas d'excuse de ne pas te servir. Toi, suis-moi. Et je pense que cet appel fait un écho dans nos cœurs ce matin. Toi, là où tu es, suis-moi. Je t'appelle, viens. J'ai un plan pour toi. Pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, je vous invite à méditer votre vie, sur votre vie. Est-ce que vous pouvez dire au Seigneur que vous l'aimez? De quelle façon l'aimez-vous? Et puis avez-vous répondu à l'appel de Dieu? Toi, suis-moi. Réfléchissons un instant là-dessus, s'il vous plaît. Peut-être vous ne connaissez pas le Seigneur et vous avez besoin de dire « Seigneur, sauve-moi, entre dans ma vie, je te suis maintenant. Moi aussi je suis faible, mais je veux être pardonné de mes péchés. Tu es mort à la croix pour mes péchés. » Dites-le lui, répétez cette prière « Seigneur, entre dans mon cœur, sauve-moi. » Demandez-le lui de le faire et demandez-lui de vous aider, il va le faire. Faites cette prière dans votre cœur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ta présence et de ta bonté. Merci de nous conduire durant toute cette journée à ta gloire. Merci de nous garder dans ta présence. Car comme disait le psalmiste, une heure dans ta présence, au mieux que 1000 jours ailleurs. Amen.